Ce que je veux dire, c'est petite cause. J'ai lu il y a. Vous avez déjà lu de Aaron Appelfeld? Non? J'ai lu il y a, je ne sais pas, 13 ans, 14 ans, dans une bibliothèque municipale, il y avait un livre. Je vais souvent lire. Je vais dans la bibliothèque, je prends tout et n'importe quoi, comme ça. Et surtout n'importe quoi. Voilà. Ok. Donc un livre, ça s'appelle Katharina d'Aaron Appelfeld. Illustre inconnu, Katharina. Bon, je lis ce livre. Un coup de massue sur la tête. Qui c'est qui a écrit ce livre? C'est pas possible. C'est un livre. Vous avez lu Katharina de
Appelfeld? Je suis en train d'essayer de me souvenir. Il me semble que c'est la femme qui est occupée de lui, non?
Non, Katharina, c'est l'histoire d'une bonne polonaise. Et quelqu'un qui parle du judaïsme aussi bien, mais en termes littéraires, j'avais jamais vu. C'était comme ça. Je dis, il faut que je rencontre ce monsieur. J'ai cherché un copain à Jérusalem, un écrivain que je connais, qui est à Jérusalem. Il y a 10 ans, juste. Il m'a dit, voilà, je le connais, voilà son numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, on se rencontre. Bon. Appelfeld, ça a été quelque chose de très nouveau dans la littérature israélienne. Très nouveau. C'est pourquoi ? Parce que jusque-là, les écrivains israéliens, c'était rompre avec la littérature de l'exil. C'est-à-dire, nous sommes un pays neuf, nous faisons une littérature nouvelle. Amos Oz, ça veut dire Amos Oz, la littérature des kibbutz, nous venons des kibbutz. On crée une littérature israélienne avec une manière nouvelle d'aborder les choses. Ok. Et lui, Appelfeld, depuis des années, bon, comme qui dirait, c'est un rescapé de la Shoah, c'est pas le seul. Et il écrit. Et les Israéliens le haïssaient, parce que lui, ce qu'il voulait dire, mais on n'est pas Israélien, on est juif. Et il le haïssait. Mais à force de volonté, il a été perçu en Israël, depuis moins de 10 ans, comme vraiment... quelqu'un qui réinsuffle un souffle dans la littérature juive, pas seulement israélienne. Et alors, moi je l'ai rencontré, il m'a dit que lui, il a connu les amis, il n'a pas connu Kafka, parce que Kafka était mort avant sa naissance, mais il a connu les grands amis de Kafka, etc. Que la littérature du XXe siècle, Kafka, ou les grands écrivains juifs, laïcs, ce qu'il recherchait, c'était le judaïsme. Et c'est ça qu'il essaie de... Alors, aujourd'hui, Appelfeld, il sort un bouquin, c'est dans Le Monde, vous avez un dossier sur Appelfeld, machin, bip. Alors, aux gens qui sont complètement fanatiques d'Appelfeld, moi je... Ok, d'accord. Appelfeld, finalement, c'est pas du judaïsme, c'est une manière esthétique d'aborder le judaïsme. Je vous montre, si vous voulez, vous pouvez savoir un peu ce que c'est le judaïsme. Dont parle Appelfeld. Ah non, non, c'est trop compliqué. Bon, c'est comme ça.
C'est pas très surprenant.
Je me trompe.
Le Ferry que vous avez donné tout à l'heure, le Ferry, il peut lire Lévinas, mais il ne va pas aller chercher, c'est vous qui l'avez dit, il va pas aller chercher les textes sur lesquels Lévinas s'est...
a construit sa pensée.
Oui, je crois que ça m'intéresse pas. Parce qu'il est, je pense, dans une certaine rationalité de la pensée, même s'il n'est pas dans la, on va dire, dans la bien-pensance, ses pensées automatiques qu'on entend aujourd'hui. Mais pour autant, il ne va pas aller chercher la source que je pense qu'ici, ouais. On vient chercher.
C'est tout, hein. J'arrête mon petit délire personnel. Hein. On va étudier, vous êtes venu pour ça, pas pour... entendre de petites histoires à la noix.
Je pense que c'est comme la grenadine.
Comment ?
Je pense que c'est comme la grenadine. C'est comme la chromatine. Voilà, je pense.
Hein, je pense que Jessica a synthétisé.
Bah, si c'est pas dilué, c'est un duel. Enfin, dilué au sens de.
C'est comme donc c'est ou alors le Nescafé sans eau chaude quoi.
Non, parce que là c'est toujours.
C'est des textes qu'on peut pas travailler seul, je crois, c'est ça en fait. Il faut que ce soit un maître qui explique, si on va dire. On peut pas Lévinas, on peut le lire, on comprend pas. Tout ce que vous voulez, on peut le lire. On n'a pas un maître qui parle et qui nous explique ce qui
se passe. Ah, d'accord. Alors, je constate, si vous voulez, j'ai mis un an à le constater. Bon, on apprend des choses dans la vie. Hein.
Oui, je pense que le Talmud.
Vous étiez au cours de la partie, elle a fait un petit
point. Ah, bien, merci. Je pense que les non-juifs n'ont aucun intérêt à étudier le Talmud. Ils veulent bien prendre la Bible, ça leur va traduire, on tourne dans. Ceux qui s'y intéressent, ils traduisent, mais le Talmud, c'est trop compliqué, c'est trop.
Mais eux-mêmes, ils font des choses compliquées.
Il faut regarder,
c'est quand même celui qui a fabriqué ça. C'est pas des juifs, quand même, ils font des choses compliquées, les non-juifs. Non, ce que je veux dire.
On est bien d'accord qu'ils font des choses compliquées.
Mais ils peuvent faire des.
Mais c'est des objets, c'est des formules mathématiques.
C'est compliqué, les mathématiques.
Et alors, mais ça, c'est à leur portée, apparemment. Mais ils veulent pas se pencher sur le Talmud. Hein.
Pourquoi pas?
Parce que le Talmud, ça
s'étudie. Il y a des chanes choumeux. Il faut une âme juive.
Oui, pour avoir envie de...
Excusez-nous, madame. Vous n'êtes peut-être pas d'accord.
Non, mais votre texte, là que vous avez demandé de lire, c'est pas très agréable, pour connaître, c'est pas très agréable. Et là, moi je viens aujourd'hui pour puissiez faire vivre un petit peu.
On va essayer, on va essayer au boulot. En tout cas, si vous voulez lire quelque chose sur Appelfeld, moi je vous conseille, parce que quand même, c'est un... Bon, maintenant, il est âgé, très âgé.
Il a impressionné quand il a commencé à raconter son histoire.
Oui, c'est vrai, mais ça c'est relativement récent. Mais il y a Katerina... Bon, il y en a qui aiment. Vous avez lu de Katerina d'Appelfeld, Aaron Appelfeld? Katerina, moi, ce livre, ça m'a assommé, c'est incroyable. Et un autre livre, il y a une interview d'Appelfeld. C'est un livre écrit par Philippe Roth. Parce qu'Appelfeld, c'est un pote de Philippe Roth. Et c'est un livre qui s'appelle Parlons Travail. Il a discuté avec des écrivains. Et il y a le passage où il discute avec Appelfeld, Philippe Roth, du travail de l'écrivain. Et sur le site internet de la Yeshiva, j'ai mis un petit billet. Appelfeld est-il le Messie? Non, parce que c'est un texte. On voit rarement. Si vous voulez, en général, quelqu'un, il veut dire une chose, il va le dire en 20 pages. Lui, tous les 10 lignes, il y a un boulet. Tous les 10 lignes. Autre chose encore. Encore autre chose. C'est rare. C'est quelqu'un qui a quelque chose à dire, c'est rare.
Oui.
C'est rare, quelque chose qui a quelqu'un qui a quelque chose à dire, c'est rare. Bon, alors, ce étant, on va... C'est vrai, c'est juste. C'est vrai que il y a quelqu'un de laïque quelqu'un laïque qui va étudier du Talmud, il se dit quand même il y a quelque chose dedans. C'est vrai, c'est juste. Très bien. Bon, alors on va commencer à étudier du Talmud autour de ça. Alors oui, alors le sujet, parce que ne vous inquiétez pas là la semaine dernière, on va reprendre succinctement les versets de la semaine dernière et on va continuer. Alors, je vous passe les textes, à moins qu'il y en a qui aient gardé les textes de la semaine dernière.
C'est incroyable ça quand même. Je ne sais plus qu'est-ce que c'était.
Alors. Alors, regardez. Je prends, hein, donc je ne vais pas refaire ce qu'on a fait la semaine dernière. On va aller un peu speed. Chapitre Yud Aleph. Voilà. Et on va prendre le verset E. Yud Aleph, verset E. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les gens d'une région limitrophe avec les Ammonéens. Il y a le général de Ammon fait le siège de cette ville et leur dit comme ça. Soit on vous fait la guerre et on vous massacre, soit vous devenez nos serviteurs, mais à une condition, que vous vous creviez, qu'on vous crève à chacun l'œil droit. C'est bon? Ça va? Ça roule? Alors il dit, vous nous laissez un petit peu réfléchir. Ils envoient des émissaires chez Shaoul qui vient d'être nommé roi. Et on va prendre le verset E. Vene Shaoul ba ahare abaka minasade. Et voilà, Shaoul vient après les vaches du champ. Rashi explique, c'est-à-dire, il vient à l'heure du retour des vaches des champs. Et il arrive avec son troupeau de vaches des champs. Il vient d'être nommé roi, je vous ferai remarquer. Hein. Bon. Vayomer Shaoul, Malaam ki ifku. Il dit, pourquoi le peuple pleure? Vayesa prulo et divrei anshe Yavesh. Ils lui racontèrent les paroles des gens de Yavesh, c'est la ville là qui est assiégée par les gens de Ammon. Donc tout le monde pleure tellement ils sont perdus. Comment on va tenir tête à cette armée tellement barbare? Vatitzla ruar elokim al Shaul beshomo et advarim aile. A éclaté le souffle divin sur Shaul quand il a entendu ces paroles. Vayichar apo merod. Son nez s'est fâché énormément. C'est une expression, c'est-à-dire la fureur. Ça se dit, la colère du nez, c'est... D'accord? Bien. Vaïkar, tsemed bakar, vaïnatechou, vaïchalar, bechol gvoul Israël, beyad amalachim les morts, asher enenu yotse achare Shaul vachare Shmuel, ko yase lifkaro. Il prit un attelage de taureau et il l'a mis en morceaux. Bon, la semaine dernière, j'ai mimé, je refais pas. Ouais, donc vous prenez deux taureaux, une hache, et vous les déchiquetez vivants. Je vous laisse imaginer la scène. Ouais, c'est... Et le bruit que ça fait, c'est bon, ok, je vous laisse imaginer, je refais pas, je remime pas, malgré les apparences, je ne suis pas un clown. Bon, donc, il prit un attelage de taureau, il est déchiqueta, vayeshalar bechol gvoul Israël, veyad amalachim, il a envoyé dans tous les territoires d'Israël dans la main des émissaires en disant, Asher enenu yotze achare Shaul vachare Shmuel, celui qui ne sort pas après Shaul et après Shmuel, koya selif karo, ainsi on fera à son troupeau. Vaipol parad Hashem ala am, traduisez. Bonjour.
Et sur le peuple est tombée la peur d'Hachem.
Oui, encore une fois.
Sur le peuple, la peur d'Hachem
est tombée. Voilà, c'est-à-dire, on pourrait dire, la terreur divine est tombée sur le peuple. C'est-à-dire, c'est pas seulement la terreur, c'est-à-dire c'est une terreur divine. C'est-à-dire, c'est même, vous pouvez remarquer, ce qui est remarquable même, un texte. Que dire? Tomba la terre. C'est pas. Il y a, pour dire Dieu, il y a plusieurs mots. Il y a Hachem, le tétragramme, et Elohim. Ici, c'était pas écrit Elohim, mais Yudke Vavke. Ce qui est la dimension de miséricorde, qui est quand même étonnant. C'est-à-dire, il y a eu, comme si j'explique que dans l'hébreu biblique, pour nommer Dieu, il y a plusieurs mots, plusieurs noms. Il y a le tétragramme, oui, et le mot Elohim, qui veut dire le Seigneur. En français, on traduit le Seigneur. Quand on traduit le terme Seigneur, c'est la dimension dominateur. Et quand c'est le tétragramme, c'est la dimension de pitié. Et là, le terme, c'est Dieu en tant que pitié. Qui est étonnant quand même. On pourrait penser plutôt la terreur divine du Seigneur. Là, c'est plutôt la terreur Yudke Vavke, qui exprime en vérité la présence divine. Donc il y a eu, si vous voulez, comme si la présence divine se reposait par cette terreur. Une terreur de la présence divine. Alors, le verset termine. Vayetsu Keshechad. Traduisons. Vayetsu Keshechad. Ils sont sortis comme un seul homme. Ouais, c'est-à-dire, et là, c'est ce verset-là, il va amener le peuple juif à la victoire. C'est ce qu'on attendait hier soir au débat. Non, je blague. Ça veut dire un peu de présence divine, quoi. Mais bon, mais alors, là, il a construit le peuple juif. Et c'est ça ce que nous allons voir. Comment, en détruisant, il a construit. C'est ça. C'est terrible. Parce que nous avons vu les semaines précédentes, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, encore la semaine d'avant, que Shaoul, c'est la dimension de la construction. Et comment il construit le peuple juif ? En explosant quelque chose. Alors ça, c'est ce qui est traité. Alors c'est possible que les personnes qui viennent depuis pas mal d'années à mes cours, c'est possible que vous étiez déjà à des moments où on a étudié ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne sais pas. On va voir donc ce passage dans le traité Shabbat qui analyse cette notion et c'est effectivement un des textes pour moi, sans trop, et on va essayer de voir ça. Je vous passe des textes. Il y a plein de textes, hein. Si il y a besoin encore, vous me dites. Bien. Alors, la semaine dernière, je l'ai passé. Alors, regardez. Alors, j'explique. Donc, c'est une Mishnah. C'est une Mishnah dans le traité Shabbat. Donc, je vais expliquer. Voilà. Oui, c'est le même. Hein, seulement, c'est deux typographies différentes. C'est le même. Alors, c'est une Mishnah dans le traité Shabbat. Shabbat, il y a 39 catégories d'actions interdites par la Torah. Le langage de la Mishnah pour sanctionner qu'on transgresse un interdit de la Torah, la Mishnah dit « chayav », dit « condamnable ». Pour dire que c'est un interdit rabbinique, la Mishnah dit « patour », c'est « exempt ». « Exempt » signifie « on n'a pas le droit de le faire, c'est un interdit rabbinique, mais si on l'a fait, ce n'est pas condamnable en pénal ». C'est-à-dire qu'à l'époque où il y a le temple de Jérusalem, où il y a le grand tribunal rabbinique à l'intérieur du temple de Jérusalem, la transgression de Shabbat, dans certaines conditions, est condamnable en pénal. Bien. Pour dire que c'est condamnable en pénal, c'est écrit dans la Mishnah condamnable. Pour dire que c'est rabbinique, c'est pas condamnable. C'est écrit patour, ce qui signifie pas condamnable. Okay. Alors, le thème de la Mishnah, c'est que les travaux interdits Shabbat, quels travaux sont interdits Shabbat? C'est les travaux type de la construction du Mishkan, du tabernacle, dans le désert. À la sortie d'Égypte, après le veau d'or, pour montrer l'expiation du veau d'or, la reconstruction après la faute du veau d'or, Dieu a enjoint au peuple juif de construire le tabernacle. Et dans la construction, il y a différentes étapes dans la construction du tabernacle, et nos sages savent par tradition orale qu'il y a 39 étapes dans la construction. Par exemple, il faut des tentures en cuir. Il y a des tentures en peau de bête. Alors, il faut donc tuer un animal, le dépecer, tanner la peau, couper la peau. Chaque chose, ce sont des interdits de Shabbat. Abattre un animal, c'est interdit Shabbat. Dépecer un animal, c'est interdit Shabbat. Enlever les poils, gratter, c'est interdit Shabbat. Tanner, c'est interdit, etc. Bien. Tout ça, ça fait partie de 39 travaux interdits. Mais de la même manière que le tabernacle est l'archétype d'une construction, on construit le tabernacle. Donc, une action où je ne construis pas, ne sera pas condamnable d'après la Torah. Je prends un exemple. Il y a un interdit d'écrire. Shabbat, on n'a pas le droit d'écrire. Alors, des fois, il y a de la buée sur les vitres. Il y a de la buée sur les vitres. Et j'écris « Liberté », j'écris ton nom. J'écris sur la buée « Liberté ». Ouais, j'écris « Liberté » sur la buée, sur la vitre, d'accord? Alors, je n'ai pas transgressé Shabbat. On n'a pas le droit de le faire, Shabbat. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas une écriture qui va rester. Dans 3 minutes, ça va partir. Donc, rabbiniquement, je n'aurai pas le droit de le faire. Ça ne ressemble pas aux travaux du tabernacle, parce que dans le tabernacle, c'était une écriture qui restait. Voilà. Alors la Mishnah nous dit, de la même manière, je fais une action, mais qui abîme, ça s'appelle me calquel, qui dégrade, je ne transgresse pas Shabbat. D'où la question qui va être très intéressante, c'est quelqu'un qui déchire dans sa colère. Je suis très énervé. Vous m'avez énervé. Dans ce que je disais la semaine dernière, c'est surtout le Shabbat qu'on s'énerve, évidemment. Parce que toute la semaine, on n'a pas l'occasion de se voir, c'est le Shabbat qu'on se voit. C'est le Shabbat qui a des problèmes. C'est sûr. C'est évident. Alors, on va vanter les bienfaits des repas shabbatiques où la famille se retrouve. Et ça, on dit, bande de connards excusez-moi, je rentre dans le sujet, vous voyez. Ça va être notre sujet. C'est casser quelque chose dans sa colère. Donc ça va être le sujet, si vous voulez. Le fond du sujet, c'est comme Shaoul qui détruit. Voilà, Shaoul qui est détruit. Bien. Alors, la Mishnah en haut dit la chose suivante. Regardez, la Mishnah, c'est les premiers mots en haut. Akorea bechamato valmeto vechol amekalkelim turim. La personne qui déchire dans sa colère ou sur son mort et tous ceux qui dégradent sont pturim. Pturim, ça veut dire pas condamnable. Exactement, pas condamnable. Parfait. C'est pas condamnable. Pas condamnable. Quelqu'un donc qui déchire dans sa colère n'est pas condamnable. Mais ensuite, la Gemara rapporte un texte contradictoire qui dit que la personne qui déchire dans sa colère est condamnable. Donc, c'est une contradiction. Alors, dans la photocopie que là, j'ai mis un trait où la Gemara souligne la contradiction. Et là, ramato à ramato kashia. Colère à colère, contradiction. Le premier texte dit que celui qui déchire dans sa colère ne transgresse pas Shabbat. Et le deuxième texte dit que celui qui déchire dans sa colère transgresse Shabbat. La Gemara dit « Ramato à Ramato nami la kasha ». Donc colère à colère aussi, pas de question. « A Rabbi Yuda, A Rabbi Shimon ». Donc on va faire là un passage de thème. Ça va d'après l'avis de Rabbi Yehuda. Là, ça va d'après l'avis de Rabbi Shimon. C'est quoi le débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Ah, Rabbi Yehuda de Amar, ça va d'après l'avis de Rabbi Yehuda qui dit Mlacha shen tzrira legufa chayav aleha. Le texte qui dit que c'est condamnable va d'après l'avis de Rabbi Yehuda qui dit qu'un travail dont j'ai pas besoin pour le corps du travail, c'est condamnable. Ça va d'après Rabbi Shimon qui dit Mlacha shen tzrira legufa patur aleha. Ça va d'après l'avis de Rabbi Shimon qui dit qu'un travail dont j'ai pas besoin pour le corps du travail, c'est exempt. Évidemment, j'explique. Nous avons dit que on apprend les catégories des travaux interdits le jour du Shabbat, de la construction du tabernacle. Mais Rabbi Shimon, c'est qui Rabbi Shimon? Comment? Bar Yochai. Ouais, en son honneur, on va chanter. Bar Yochai, Bar Yochai, Bar Yochai, Rabbi Shimon, Shimon, Bar Yochai. Donc, le grand Rabbi Shimon Bar Yochai, grand maître de la Mishnah, dit, a une idée très puissante, qu'un travail dont je n'ai pas besoin pour le corps du travail, ce n'est pas transgression de Shabbat. Pourquoi? Rashi explique. Il y a beaucoup de manières d'expliquer, mais je vais prendre l'explication de Rashi, qui est la plus simple. Qu'un travail, les travaux interdits Shabbat, sont des travaux constructifs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est aussi la Torah dit qu'est-ce qui est condamné Shabbat, c'est mlechet marchevet, un travail dont j'ai une pensée, une volonté positive dans le travail. Si je veux faire l'action, mais je n'ai pas une volonté positive dans l'action, la Torah ne condamne pas Shabbat. Ça sera interdit rabbinique, mais ce n'est pas condamné. Explication. Alors ça va vous choquer, j'espère. On est là pour ça. On est là pour ça. Je vais faire un exemple simple, sans rentrer dans toutes les nuances du sujet. Parce que des livres, on peut écrire des livres là-dessus. Hein. Et des livres ont été écrits là-dessus. Par exemple, disons que nous soyons... Ici, c'est une chambre, ce n'est pas une synagogue, c'est une chambre, Shabbat, et qu'on veuille dormir. Et que quelqu'un, ça le dérange qu'il y ait la lumière. Ça le dérange qu'il y ait la lumière. Alors, il éteint la lumière, c'est pas parce qu'il veut éteindre la lumière, mais ce qu'il veut pas qu'il y ait de la lumière. En soi, il veut pas éteindre la lumière, mais il veut qu'il n'y ait pas de lumière. Je sens que ça fait tilt. Je sens que... Bienvenue au monde enchanté du Talmud. Alors, regardez, je vais prendre un exemple, un autre exemple, peut-être plus simple. J'essaie de trouver un exemple simple. L'exemple de la Mishnah d'Afsade Gimel Amoudbel dans le traité Shabbat, c'est le suivant. Disons que derrière cette porte, c'est la rue. Disons que bon, un peu d'imagination. On fait comme les enfants. On fait comme si. Ouais. On dit. Ouais. On dit que c'est la rue là derrière. On fait comme si c'est la rue. Ouais, c'est la rue derrière la porte. On joue comme si c'est la rue. D'accord ? Bien, c'est la rue derrière la porte. Nous savons Shabbat qu'on n'a pas le droit de sortir un objet d'ici. De la pièce, d'une pièce à la rue. C'est l'interdit de sortir un objet. De la pièce à la rue, c'est interdit. Ce étant posé. Bien. Alors. Disons que, ici, Shabbat, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. On veut faire un kidouche. Il y a plein de monde. On veut faire un cocktail. Il y a beaucoup de monde. Il n'y a pas de place. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On prend les chaises et on les sort dehors. Donc je sors dehors la chaise dans la rue. Pour Rabbi Shimon, je n'ai pas transgressé le Shabbat. Pourquoi ? Je l'ai sorti dans la rue. Je veux le sortir dans la rue, mais ce n'est pas condamnable. Pourquoi ? Alors ?
Donc on sort la chaise. Le but, c'est pas de la mettre dehors.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire... Je veux pas que la chaise soit dehors. Je veux que la chaise soit pas là. Donc j'ai pas une volonté positive. J'ai pas une volonté positive que la chaise soit dans la rue. Ce que je veux, c'est qu'elle soit pas là. Ça c'est beau, ça. Lise, c'est bon ?
Oui, ça.
C'est bon ? Ça sera l'examen, attention. Hein. Vous pouvez le réexpliquer.
Une action qui en elle-même est interdite si l'intention de l'action n'est pas de la faire, mais si le résultat de l'action n'est pas l'action en elle-même, mais finalement autre chose, c'est-à-dire l'absence de la...
Voilà. Ce que vous dites autre chose, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire le but n'est pas l'action, mais autre chose. C'est ça. Le but n'est pas dans l'action, mais dans autre chose. Alors, il y a beaucoup d'explications, mais ça, c'est l'explication de Rashi, qui a des incidences légales importantes, des incidences légales importantes. Je prends un exemple pour que vous sentiez l'impact de la chose. J'ai entendu d'un grand maître, un décisionnaire, important. Quelqu'un, par exemple, Shabbat, on n'a pas le droit de travailler. C'est connu. Bon, c'est connu. Pas le droit de travailler. Bien. Maintenant, quelqu'un va à un cours et à 22h, un jeudi soir, réalise que ça y est, c'est trop important, il faut que je respecte Shabbat. C'est trop important, il faut que je respecte Shabbat. Mais des fois, c'est pas si facile. Ça veut dire, la personne, elle, je sais pas, il faut qu'elle donne un préavis à son patron. Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va s'en sortir? Et là, je sais pas, moi, si elle garde Shabbat là, ce samedi-là, elle va être virée, qu'est-ce qu'elle va faire? Comment c'est possible? Alors, il y a des décisionnaires qui disent, en se basant sur ce qu'on vient de voir, que tant que la personne finalement veut faire Shabbat, mais il lui faut encore quelques temps pour le faire. Elle ne sait pas encore comment faire, elle va trouver une solution, mais elle ne veut pas faire. Donc, elle va au boulot, à la limite. La personne va au boulot. Mais quand, par exemple, elle va écrire sur l'ordinateur ce jour de Shabbat, elle ne veut pas écrire. Elle veut écrire en attendant de trouver une solution. Alors, d'après cette explication, c'est Mlacha Shel Hatzricha L'Gufa, c'est l'interdit rabbinique, c'est pas un interdit d'après la Torah. Donc, c'est des incidences pratiques puissantes. Et que quelqu'un se serait dans une telle situation, on ne pousserait pas. Pas besoin de boost. Tu vas trouver une solution, trouve ton temps. Mais dans la mesure où, effectivement, la personne veut respecter Shabbat à terme. Ouais. Que si elle se raconte des histoires, elle se raconte des histoires elle-même, elle raconte des histoires au bon Dieu, enfin, finalement, c'est faux, elle veut finalement le faire. Mais si effectivement, la personne ne veut pas, mais elle ne trouve pas de solution, ça devient interdit rabbinique, d'après certains décisionnaires.
Je ne sais pas si c'est un...
C'est chaud, hein, c'est... Ce que je vous dis, là, c'est des secrets de la halakha, mais je me permets de dire ça pour comprendre le sujet. Hein. Mais d'après Rabbi Yehuda, non. D'après Rabbi Yehuda... Rabbi Yehuda est contre, c'est un débat. Ça, c'est Rabbi Shimon. Alors, dans le sujet, tout de suite, Rivka, tout de suite, mais ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Donc, moi, je suis en colère.
Il ne faut pas m'énerver, hein. J'ai prévenu. Il ne faut pas m'énerver. Donc, moi, je suis très en colère. J'en ai marre, je vous ai dit de préparer le sujet, vous n'avez pas préparé le sujet, vous êtes des nuls. J'en ai marre, flap. Je prends ma chemise et je suis tellement en colère, je prends mon costard, je le déchire. Il y a un interdit Shabbat, c'est de déchirer. Mais en vérité, je déchire. Mais quand je déchire, c'est pas parce que je veux déchirer mon costume. Je déchire pour calmer ma colère. Donc d'après Rabbi Shimon... Il n'y aura pas de transgression de Shabbat. Mais pour Rabbi Yehuda, oui. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda dit, une action voulue, je le veux. On dit, est-ce que tu veux déchirer ton costard? Oui, je veux déchirer mon costard. Oui, et comment que je veux déchirer mon costard? Ne répète pas, est-ce que je veux déchirer mon costard? Je veux déchirer mon costard. Mais c'est, je ne veux pas déchirer mon costard pour déchirer mon costard, mais pour me calmer. Rabbi Yehuda dit, puisque finalement il y a une volonté positive, pas dans le fait de déchirer, mais dans le fait que je déchire, alors il y a transgression de Shabbat. Donc la Gemara veut résoudre comme ça. Le premier texte qui dit que celui qui déchire dans sa colère ne transgresse pas Shabbat, ça va d'après l'avis de Rabbi Shimon. Et celui qui dit que déchirer son vêtement dans sa colère transgresse Shabbat, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. C'est bon?
Mais à la base, c'est interdit de se mettre en colère. C'est de la
volonté. Alors, excusez-moi, c'est la première fois que cette demoiselle vient. Est-ce que on vous a prévenu du style d'étude qu'il y a?
Non, c'est pour ça, je ne sais pas.
Excusez-moi.
Fanny, Sophie, vous avez prévenu votre pub?
Non, je n'ai pas compris.
Comment?
Non, c'est bon, j'ai compris.
Mais qu'est-ce que...
Non,
mais excusez-moi, mais. Alors...
Vous parlez des couleurs nécessaires, c'est ça?
Oui, dans le non, de
non,
vie,
mais... Pour... non, mais. Regardez, excusez-moi, je vous mets un petit peu au parfum. Jessie, vous avez prévenu votre ami?
Non, sa sœur est venue au cours du mardi soir.
J'enregistre le cours pour mon épouse. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu leur veux? Elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux dans ton cours? Elle me dit, là, qu'est-ce que tu leur veux? Pourquoi tellement d'agressivité? Non, non, je suis pas agressif. Mais je veux seulement... ne m'en voulez pas pour ce que je vais dire. Mais où vous avez vu cette sornette qu'on n'a pas le droit de se mettre en colère?
Moi, je voulais dire que j'ai eu un cours de Ravazimov, de Tania, là-dessus, sur ça. C'était à Vodazara et c'était dans Tania, en tout cas. Je ne sais pas que ça... Certes, c'est Rabat, mais c'est pas...
Alors, regardez, ça va être le sujet. Ça va être le sujet. Mais... On essaie, non, parce que ce que vous dites, c'est connu, c'est juste, c'est la suite de ce... C'est pas, Sophie, c'est pas dans le Tania, c'est là, c'est ce qu'on va faire là tout de suite. C'est là, c'est tout de suite, ça arrive tout de suite. Mais, alors, ne prenez pas mal, hein, vous avez raison. Mais on va voir que pour les maîtres du Talmud, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que dire que c'est sûr que c'est pas bien de se mettre en colère, en vitesse de croisière, mais ça veut, excusez-moi l'expression, ça veut rien dire, c'est pas bien de se mettre en colère. C'est toute notre vie, elle est faite de se mettre en colère. Ça ne veut rien dire. Excusez-moi l'expression. Moi, je dis ça pas par agressivité, mais je dis ça par on dit des choses dans la vie. On ne sait pas qu'est-ce qu'on dit. Il ne faut pas se mettre en colère. Alors vous voyez, justement. Eh bien, c'est ce qu'on vient de voir. C'est pour ça que j'adore le livre de Samuel. On vient de voir, relisons le verset. C'est pour ça, le livre de Samuel, et c'est Kodesh Kodashim. On voit qu'il a construit le peuple juif. Regardez, relisons le verset, comme il est puissant. Vaïrar à Poméot, il s'est mis en fureur énormément. Et la colère d'Hachem est tombée sur le peuple. Donc on voit que le texte, c'est juif ça. C'est chez nous. C'est la Torah. Il dit que le roi s'est mis énormément en colère. Et c'est pas seulement qu'il s'est mis énormément en colère, mais il a déchiqueté deux taureaux.
Mais est-ce qu'il y avait une raison, là?
Ah oui, d'accord. Vous êtes à Franprix Cacher, boulevard Voltaire. Il y a quelqu'un, il a resquillé la place. Vous dites, vas-y, dis-moi. Moi, je suis garé. Ouais, l'autre, il dit, ouais, je suis en double fil et machin. Et vas-y. Bon, ok, ça peut être, faut peut-être c'est pas les mêmes enjeux, vous me direz. C'est pas les mêmes enjeux, mais. Non, regarde.
De quelle colère on parle?
Ah voilà. Ah voilà, donc dire qu'il ne faut pas se mettre en colère,
dire que c'est comme faire l'idolâtrie, c'est juste. Vous savez d'où c'est écrit? C'est dans le texte qu'on va voir. Mais mais dans la vie, c'est comme, par exemple, quelqu'un il dit il faut pas donner de fessée à ses enfants. Si y a un verset qui dit dans les proverbes de Salomon, Choser shifto sone beno, celui qui s'empêche de frapper son enfant, c'est comme il le hait, il le haït. Alors il faut voir quand, oui, non. Là on a avancé là. Hein. Vous voyez, Hachem, là, on a avancé. Là, on a fait un grand pas.
Quelle est la signification du verset qui dit « Celui qui se met en colère, les formes d'enfer s'abattent
sur lui » Quand la cause commune est « Guinom Shortimbo ». Oui, il y a un texte qui dit ça, c'est vrai. On sent que c'est pas bien. Alors, juste... on sent que c'est mal barré, quoi. Non, mais c'est dans le Talmud. C'est dans le Talmud. Mais c'est vrai, alors, ça c'est en vitesse de croisière. Mais d'un autre côté, quand on dit que nous, on est monothéiste, on dit Hachem Echad, c'est qu'il n'y a pas une dimension qui existe, qui ne participe pas de la gloire de Dieu. Par exemple, en français, on dit un des péchés capitaux, c'est la gourmandise. Mais on peut, quelqu'un qui n'est pas gourmand, il a du mal à servir Dieu aussi. Non, c'est vrai. Là, à Pessah, il y a eu deux jours de Yom. Là, à Shavuot, il va y avoir trois jours de fête. Si quelqu'un n'est pas gourmand, il crève. Je veux dire. Non, si quelqu'un n'aime pas manger. Franchement, ça c'est pire que l'enfer. On voit pour nous, il y a beaucoup de mitzvot, c'est manger. Et c'est sûrement aussi très bien que de faire des bons repas pour Shabbat. C'est ça. Alors justement, c'est ça l'intérêt du Talmud. C'est ça justement. Maintenant, c'est là où ça va se passer. Qu'il y a deux textes contradictoires. Un texte qui dit que c'est rien, un texte qui dit tu transgresses Shabbat. Alors, première explication, l'un pense que ça va comme Rabbi Yehuda, l'autre ça va comme Rabbi Shimon. Voilà. Et vous voyez, parce que dans une semaine, ça va être le troisième jour de Omer, l'Akba Omer, c'est une grande fête en l'honneur de Rabbi Shimon. On va à Rabbi Shimon, on va dans le Talmud, il est très très fort, très puissant, c'est quelqu'un. Les gens croient que Rabbi Shimon, c'est que la Kabbalah, mais dans la halakha, la halakha même notre vie à nous, de la vie juive de tous les jours, il y a des incidences dans la vie de l'enseignement de Rabbi Shimon. Rivka, vous vouliez dire
tout à l'heure. Non, mais c'était une bêtise.
Ah oui, alors...
Que je ne sais plus si c'est en Chine ou au Japon, que quand les travailleurs ils veulent faire la grève, ils vont au travail, mais avec une bande noire au bras, pour dire qu'ils sont en grève.
Mais ils travaillent.
Ils travaillent.
Alors c'est au Japon.
C'est pour dire les fêtes de Shabbat.
L'intention...
Au Japon, alors, j'ai ça.
Parce que quand on fait la grève, hein, parce qu'on continue à travailler, mais avec ce qu'on appelle la grève de travail de
zèle.
Hein, parce qu'il ne faut pas s'arrêter, parce que sinon, l'entreprise, si on s'arrête, si l'entreprise ne marche pas, qu'est-ce que c'est, ça veut dire la position des salariés? Donc, il faut que l'entreprise continue, même l'usine continue à tourner.
C'est je ne veux pas travailler, je travaille, c'est je fais comme Rabbi Shimon ce jour-là.
Voilà, c'est ça. Par exemple, hier, je regardais le débat Mais il y en a qui veulent encore dépenser pour distribuer encore, je ne sais pas, les problèmes sociaux, je ne sais pas. Mais
c'est irresponsable, vous voulez dire.
Moi, je pense que quand, par exemple, augmentation de salaire, à condition que l'entreprise marche.
Ah oui.
Si l'entreprise ne fonctionne plus, comment on peut interdire licenciement? Moi, il y a tellement d'incohérents, je ne sais pas, on comprend. Par exemple, au Japon, en ce moment, nous sommes dans des conditions très difficiles avec les catastrophes naturelles. Vraiment, c'est parce que quand on a une grande catastrophe naturelle, on peut en colère à qui? On ne peut pas. C'est la nature, donc on ne peut absolument rien. Et les Japonais, je pense que vous déjà dans la mentalité des Japonaises, rien ne dure. Un jour à l'autre, ça disparaît. C'est depuis des siècles, c'est ça. Donc rien n'est dur.
Ah, d'accord.
C'est le néant, voilà. Donc même à partir du moment où on perd complètement, on essaie de reconstruire. Dans ce cas-là, ce n'est pas le moment de revendiquer, voilà, c'est le gouvernement qui paye. Non, ce n'est pas la question, parce que comment on peut faire? Donc il faut trouver vraiment petit à petit pour reconstruire. Donc au moment où on a connu dans les années 90, on a connu vraiment pendant une dizaine d'années de récession économique. Comment on a fait? Les salariés qui a bien accepté de travailler plus, gagner moins. Parce qu'il faut que les entreprises qui rétablissent. Mais ici, c'est totalement contraire. Comment
c'était exotique. C'était exotique. Mais alors, donc.
Donc il n'y a pas de vacances. Hein. Il y a 10 jours de vacances officielles. Hein. Mais même 10 jours de vacances par an, on ne prend pas.
Mais alors, quand il y a les touristes japonais qui viennent au château de Versailles, les touristes japonais qui viennent, mais
les touristes japonais, soit ce sont des jeunes,
oui,
soit c'est au-delà de 60 ans.
Ah, d'accord.
Jamais on ne voit jamais des couples aux alentours de 30, une trentaine, une quarantaine d'âges, parce que des hommes qui sont très occupés, donc ils ne voyagent jamais en couple.
Ah,
donc ça, c'est bien regarder.
Donc il faut pour faire la grève, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, je travaille, mais je ne suis pas d'accord.
Voilà, c'est pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord.
Je le fais, mais je ne suis pas d'accord. C'est comme Rabbi Shimon, voilà. C'est ce que c'était... Non, mais c'est très intéressant, hein, c'est très, très intéressant. Très bien, c'est vrai que nous, on est dans notre système français.
Oui, mais à mon avis, parce que moi, ça fait déjà très longtemps que je vis ici, ça fait déjà 30 années, mais ici, ce sont que des droits, on a le droit,
voilà,
pour toucher ceci, cela, on a le droit. Mais par exemple, au Japon, même on peut demander, quand on a vraiment, on ne peut pas, on peut demander une aide à location,
oui.
Et ça c'est dernière minute, c'est pas le droit, parce que sinon on a vraiment honte de demander allocation ou autre, parce que c'est vraiment, si on va pas...
Irresponsable, quoi.
Et sinon, c'est pas comme ici, hein. Ici, n'importe qui, voilà, on a le droit, on demande. Tout ça vient d'argent, je ne sais pas.
Je ne sais pas. François Hollande ne m'a encore pas demandé mon avis. Alors, ok. En tout cas, donc on revient. La dimension de Rabbi Shimon, c'est de dire un travail, c'est pas seulement pour, quand la Torah interdit un travail, c'est pas seulement vouloir le travail, mais avoir une volonté positive dans l'action. Rabbi Yehuda condamne une action. Si elle est voulue, c'est interdit, c'est condamnable, même si le but de l'action n'est pas dans l'action elle-même. Ok ? Bien. Là-dessus, la Gemara va dire la chose suivante. Regardez.
Donc, vous avez les lignes larges et les lignes fines.
Mais c'est quand même interdit rabbinique pour Rabbi
Shimon. Oui, évidemment. Non, c'est interdit rabbinique. Non, c'est interdit rabbinique. Regardez. Bon. Ce que nous faisons, c'est l'étude précise d'un passage du Talmud. Entre l'étude précise du passage du Talmud et la halakha pratique de nos jours, une question qui se pose dans ma vie, il y a 5000 étapes. Nous ne sommes pas en train de dégager la conclusion légale pour le moment. Pour le moment. Ok, bien. Nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne avant que ça vienne large. Donc on veut dire que le texte qui dit que déchirer dans sa colère, c'est condamnable, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. D'accord ? La Gemara conteste ça. Et mort ! Alors, c'est un passage absolument magnifique, un petit peu difficile, mais on va se débrouiller. Emor deshmat le Rabbi Yehuda bemetaken. D'accord, on a entendu que Rabbi Yehuda condamne un travail dont je n'ai pas la volonté dans le corps du travail. D'accord, Rabbi Yehuda condamne. Mais bemetaken, si je construis quelque chose, bemekalkel mishmat le, mais quand j'abîme, ici, il abîme sa chemise. Est-ce que, quand il abîme, est-ce que Rabbi Yehuda condamnera ? On a dit d'accord, c'est Mlacha Sheyatzra Legufa. Rabbi Yehuda condamne un travail. Il n'a pas la volonté positive dans l'action. D'accord ? Mais là, par exemple, regardez, j'ai pris l'exemple de la chaise. Je sors les chaises pour faire de la place. Finalement, j'abîme rien. J'ai avancé quelque chose en mettant les chaises dehors. Mais là, il casse. Ça, il abîme. Comment Rabbi Yehuda, même Rabbi Yehuda, sera d'accord avec ce principe qu'abîmer, c'est exempt Shabbat ? Réponse de la Gemara. Amar Rabbi Avin, Rabbi Avin dit Aï nami metaken ou. Celui-là, il construit aussi des ka'avid narat ruar le yetzro. Celui-là, il construit parce qu'il calme ses pulsions.
C'est pas construire quand même.
Il calme ses pulsions. Regardez comme c'est moderne. C'est moderne, ça. Ça veut dire. Là aussi, c'est. Là, c'est constructif. Ça veut dire. Je reprends. Il faut. Alors, c'est vrai que l'étude du Talmud est très difficile parce qu'il y a le côté technique et il faut réaliser de quoi on parle. Il faut chaque fois essayer de bien visualiser quel est le point précis qu'on est en train de parler. On est en train de dire, le type, il est en colère. Le type ou la type, hein, c'est peut-être une dame. Hein. Pourquoi pas ? Alors, il est en colère. Il est en colère et il est tellement en fureur, j'en ai marre, schlac ! Ouais, il casse la chaise. J'en ai marre, tous ces trucs-là, et flan ! Voilà, il casse. Alors maintenant, il a cassé la chaise et l'estrade. Alors. D'après Rabbi Yehuda, il a transgressé en cassant, en déchirant la chose, ou en cassant la chose. Il a. C'est vrai que c'est pas qu'il voulait, par exemple, bricoler la chaise. C'est pas qu'il voulait casser la chaise pour en faire une plus belle. Mais c'est pas qu'il voulait casser la chaise. C'est. Parce qu'il est en colère et casse la chaise. Donc, on va dire, mais il veut quand même casser la chaise. Ce n'est pas pour casser la chaise, mais c'est pour calmer sa colère. Alors, ok, ça c'est Mlaraché Atzral Goufa. Mais finalement, il a cassé la chaise. Donc, il a abîmé.
Réponse non, parce que une fois qu'il l'a fait, ça l'a calmé. Ça l'a calmé. Il a calmé ses pulsions. L'expression est une expression amusante parce que il a nachatroar le yetzro. Il a fait du plaisir, un bon plaisir à ses pulsions. Voilà. Il avait une pulsion, il l'a calmée. Donc c'est bien. Ouais. Donc d'où la question, est-ce bien de calmer ses pulsions?
Toutes.
Comment?
Toutes.
Je sais pas. Alors, bon, vous allez me dire que c'est pas bien. Hein. On sent là le front de la morale qui va arriver là en hélicoptère. Est-ce bien de calmer ses pulsions?
Non, parce que j'ai lu les livres.
Oui,
j'ai lu tous les passages. Et j'ai donné raison à tous les raisonnements. Quoi. Ça filait. Mais maintenant, je me dis, pourquoi c'est constructif de calmer ses pulsions?
Alors, il va maintenant, il va y avoir, et c'est ça qui est difficile, il va y avoir deux lectures de la suite du Talmud.
Oui, mais tu construis quoi?
Ça fait du bien, tu peux être...
Mais comment? Ça fait du bien, mais tu construis rien.
Ah, ça fait... Ah, voilà. Ouf.
Mais on grandit...
On est marre de tout ces... Il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Et Flo, paf! Salaud!
Ça vous est déjà...
Fumier!
Très énervé, quelque chose... Et vous êtes équilibré.
Le mec, il a un hosto, ça m'a fait du bien.
En plus, t'es énervé parce que t'as cassé les trucs.
Non, mais si vous voulez, moi ça m'énerve parce qu'on dit ouais, la violence c'est pas bien. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve de dire que la violence c'est pas bien. Ça m'énerve. J'ai cherché dans tout le Talmud le passage qui dit la violence c'est bien.
Je suis
Comment? Ben ouais, oui. C'est bien, on se prépare à Shabbat. Maintenant, vous n'allez pas dire j'étais à un cours de Rav Azimov, il a dit que c'était pas bien. Vous allez dire j'étais à un cours de Rav Zizek, il a dit que c'était bien. Rav Zizek, il a dit que c'était constructif. Hein. Alors, regardez mes amis. Là mais il faut pas s'arrêter là. Hein. Si vous partez à ce moment-là, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, il va y avoir deux lectures. Deux, et ça, c'est ça qui est extraordinaire, du même texte, il va y avoir une lecture qui va là, une lecture qui va là. La lecture de Rashi et la lecture de Maïmonide. Ce sont deux lames de fond complètement différentes dans le sujet, justement, de la violence. Alors, première explication, regardez. Amar Rabbi Avin, un ami me taquait, nous, si c'est constructif, il construit parce que ça calme ses pulsions. Quand vous avez dit, ça le soulage. Oui, ça soulage. Voilà. Je voulais te casser la figure, mais en vérité, c'est constructif. Je t'ai refait le portrait. T'étais moche, t'es mieux maintenant. Je t'ai cassé le nez, plaf. Mais ça fait longtemps que je voulais le faire. Et ben, c'est fait. Shabbat.
Et les fois que tu dois Shabbat, déjà, c'est pas une raison de se retenir, de savoir que c'est un jour saint, de voir que...
Non, mais regarde, mais tout ça, c'est bon. Tout ça, vous avez raison, mais c'est pas du Talmud. Alors, c'est vrai. Non, mais tout ça, vous avez raison. Il faut de la sérénité, il faut de la compréhension mutuelle, il faut du respect. Tout ça, c'est bien. Mais encore. Alors, Rabbi Avin dit, « Aïnami metakenud iskal. » Alors regardez la phrase suivante qui est la phrase clé. C'est trois lignes avant que ça devienne large. Vichai gavna mishare. Mais est-ce qu'on a le droit de faire ça? Le texte dit, Oui, c'est constructif. Oui, c'est constructif. C'est constructif parce qu'il calme sa colère. Donc, d'après Rabbi Yehuda, ça sera condamnable. Le texte dit, mais est-ce que faire ça, est-ce que c'est constructif? Et non, est-ce que faire ça, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Il y a deux manières de comprendre cette phrase. On va prendre l'explication de Rashi. Est-ce que faire ça, c'est permis? Rashi dit, mais on ne vient pas de dire que c'est permis. On vient de dire, s'il l'a fait, est-ce qu'il a transgressé Shabbat ou non? Alors Rashi comprend l'expression, est-ce que c'est permis? C'est-à-dire, nous allons voir que casser dans sa colère, c'est interdit. Et pas seulement c'est interdit, c'est gravement interdit. C'est gravement interdit. Voilà. Rashi explique. Et Rashi a toute une conception absolument magnifique. L'hypothèse était que se défouler, se soulager, c'est constructif. Mais le Talmud va dire que c'est gravement interdit. Et alors, c'est interdit, mais ça n'empêche pas que ça soit constructif. Alors, on va voir quel est l'interdit. Et il y a le texte que vous avez cité au nom du Tanya, et le Tanya, il l'a trouvé ici. Misharé ve'atanya, mais on enseigne. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Khilfa Barigra, Shama Mishum Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc il y a un maître, Rabbi Yochanan ben Nouri, qui dit Amekarea Begadav Bechamato. Celui qui déchire ses vêtements dans sa colère, va me Shaber Kelav Bechamato, la personne. Donc premier, celui qui déchire ses vêtements dans sa colère. Deuxième cas. Ameshaber kelav bechamato, la personne qui casse des objets dans sa colère. Amefazer maotav bechamato, la personne qui dilapide son argent dans sa colère. Ye benecha keoved avodazara, que ça soit à tes yeux comme quelqu'un qui fait le service de l'idolâtrie. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'idolâtrie? Certes, on sait, on a appris que celui qui casse quelque chose dans sa colère, c'est comme un idolâtre. Où c'est écrit, c'est ici. Mais le Talmud va expliquer pourquoi. Shekar umanuto shel yetzerara. C'est comme ça la conduite du mauvais penchant. Ayom omerlo asekar. Aujourd'hui, il dit fais ci. Le mara omerlo asekar. Le lendemain, il dit fais autre chose. Ad shomerlo avod avodazara voler vrovet. Jusqu'à qu'à la fin, le mauvais penchant lui dit va faire l'idolâtrie et il va faire l'idolâtrie. Amar Rabbi Avin dit Maïkra, où voyons-nous un verset qui analyse cette notion? C'est un verset dans les psaumes qui dit Lo ye becha elzar velo tishtachave leel nechar. Qu'il n'y ait pas en toi une puissance étrangère et ne te prosterne pas à un dieu étranger. Ezeu Elzar Shiesh Bekufo chez la dame, quel est le dieu étranger, la puissance étrangère qui est dans le corps de l'homme? Ave Omer, Zeyetserara, c'est le mauvais penchant. Ok. Donc on voit ici que le texte dit que casser quelque chose dans sa colère, dilapider de l'argent dans sa colère, casser des objets dans sa colère, c'est comme si je servais un dieu étranger. Pourquoi? Alors, c'est ce qu'on maintenant on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça a à voir? Casser quelque chose dans sa colère, dilapider son argent dans sa colère et servir un culte étranger. Qu'est-ce que ça a à voir? Alors, ce texte est connu. Vous l'avez cité. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'idolâtrie? L'idolâtrie, je ne sais pas moi, l'idolâtrie, c'est... D'abord, on ne sait pas bien qu'est-ce que c'est l'idolâtrie. Hein, nous, dans nos contrées, on ne sait pas bien qu'est-ce que ça a à voir avec l'idolâtrie. Essayons d'expliquer. Alors pour ça, on va essayer de se faire une auto-analyse personnelle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous mettre en colère, d'avoir envie de casser quelque chose? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe en nous?
On n'a plus rien comme présence, on est tout entier, on oublie complètement la présence de Dieu, on oublie tout en fait. On est, y a comme une puissance étrangère qui prend possession de soi. Dans certains cas, on est vraiment en colère. Donc, on évacue complètement Dieu, on évacue tout, et on sait ce qu'on est emporté par cette pulsion. Donc, il n'y a plus que ça qui compte à ce moment-là.
On oublie ouais. Dieu dans plein de choses. Quand on bosse aussi, ou là aussi, quand on est étudiant, on oublie Dieu aussi. Non, ce que je veux dire.
À ce point-là.
Comment?
À ce point-là, pas. Elle était vraiment en colère, vraiment, vraiment en colère, même si on lui dit oh là là, t'es en train de faire quelque chose de totalement interdit, ça ne va pas du tout le calmer. Si je suis en train de travailler, on me dit oh, t'es en train d'oublier Dieu, hop, je me rappelle de Dieu. Mais là, si vraiment je suis très très en colère au point de vouloir taper quelqu'un, c'est que même si on me dit « t'es en colère, c'est de la vodazara »,
Mais vous ne m'avez pas expliqué en quoi c'est de la vodazara. Qu'est-ce que ça a à voir avec un culte étranger?
C'est-à-dire que si on part du principe...
Qu'est-ce que ça a à voir avec un culte étranger?
Possédé par un...
Comment?
Possédé par un flux de yetzerara qui déborde.
Mais essayons... On enlève le mot Yetzera, on essaie de le dire simplement des mots français du Massif Central. On met Dieu de côté, on Yetzera de côté, on est à Aurillac et on essaie de se mettre en condition intérieure de qu'on a envie de tout casser. Qu'est-ce qui se passe en nous? Qu'est-ce que ça veut dire?
Présence de sa conscience.
Il
n'y a plus de présence de sa conscience, on n'est plus soi. On est complètement. On est un peu extérieur à soi-même.
Possédé par le
conscience.
Comment?
On dit on est hors de soi quand on est en colère.
Hors de soi.
Possédé par le démon.
Moi, je ne contrôle pas.
Mais
en général, quand on est en colère, c'est qu'on ressent une certaine injustice. Donc, en soi, normalement. Dans un idéal, on devrait se dire que bon, tout ce qu'il fait, c'est juste pour nous. Donc tout ce qu'il fait, normalement, c'est pour le bien. Donc en quoi, moi, je peux dire non, ça, c'est injuste. Ressentir une injustice, alors que normalement, on devrait penser que tout ce qui se passe autour de nous, vous voyez ce que je veux dire ou pas?
D'accord. Ouais, là, je pense, Fanny, vous avez avancé, je pense, un élément. Par exemple, je vais reprendre ce que vous dites. Par exemple, est-ce que casser quelque chose dans... Mais je pense que, bon, il y a les messieurs... C'est plus masculin, la colère. Hein. Enfin, les dames aussi se mettent en colère, mais la violence est plus... comment dire? Je ne sais pas, je n'ai pas fait des études scientifiques, mais il y a plus de serial killer monsieur, en tout cas dans les films, que des serial killer madame, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vous laisse à votre...
Oui, ça les empêche pas d'être en colère, les femmes...
Oui, non, d'être en colère, mais de casser quelque chose ici. Ben oui, non, ici, on... Oui, casser, oui. On peut le faire,
oui.
Casser quelque... D'accord. Non, par exemple... Ah, mais par exemple, la bonne femme qui envoie des assiettes à la tronche de son mec.
Oui, ah, pourquoi pas.
Voilà, ah, voilà, on y est.
On y est.
C'est bien, je le sens, On habitait, il y a X années, dans une cité à Créteil. On avait la voisine. Elle s'achetait souvent des services en porcelaine. Parce qu'on disait, schlag, prends ça, schlag, et schlag. Alors, ils ont divorcé à terme. Alors, regardez. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez la personne qui dilapide son argent dans sa colère. Est-ce que vous feriez ça? C'est quoi quelqu'un qui dilapide l'argent dans sa colère? Vous le sentez comme ça?
Oui. Oui, c'est un comportement
qu'on peut avoir. Alors, comment? Je ne comprends pas qu'on dépense l'argent dans sa colère.
Si, pour calmer la pulsion.
Oui.
Donc
Comment on peut calmer ses pulsions? Comment on peut pulsion? Comment on peut calmer?
Non, mais si on dit la conscience de dilapider son argent, enfin, on bosse quand même tous les jours pour travailler et pour gagner cet argent, finalement, c'est quand même une bonne partie de notre vie consacrée à gagner cet argent. Quelqu'un qui dilapide son argent en sa colère.
Ah, très bien. Alors regardez, je vais vous dire moi comment je traduis ça. Ouais, c'est la personne qui fait son alia.
Comment, pardon,
Non, ça veut dire la personne, elle a construit sa vie. Ouais. Ah. Elle construit sa vie. Elle vit, je sais pas. On est né quelque part, on construit sa vie, on bosse, on a un environnement. C'est pas... On n'a pas fait ça en une minute. On a... Je parle pas quelqu'un qui a 17 ans, 18 ans, mais quelqu'un, je sais pas, moi, qui a 35 ans, qui a construit une vie, machin. Et puis à un moment... J'en ai marre de tous ces pathos. J'en ai marre. On ne peut pas vivre ici comme des juifs. Il va vendre son appart rapidos. Il ne sait pas exactement quel boulot il va avoir là-bas. Mais je ne peux plus vivre ici, je pars. Ça, c'est un Vaudazara. Non, si, c'est un coup de... C'est un coup, j'en ai marre. C'est ça. Oui, mais c'est ça, c'est que je supporte pas ma vie. Je supporte pas ma vie. Je vis, j'ai une vie que j'ai construite. Elle va, je crois, elle va rouspéter. Où est-ce que vous l'avez amenée là? Non mais. Bah, elle va rouspéter, hein. C'est de votre faute. Vous l'auriez.
Non, je suis d'accord parce que ce que vous dites là dernière fois. J'ai vu beaucoup de gens qui.
Il y a des gens, ils foutent leur vie en l'air comme
là-bas,
ça.
Là-bas, oui, ils reviennent.
Ils reviennent parce que c'était sous le coup. Il dit oui, mais dans la Torah, il y a l'amour de Sion. J'ai confiance en Dieu, tout ça, tout ce baratin, il est bien. Mais le fait est, c'est qu'ils ne supportent pas leur vie. C'est, le fond, en vérité, c'est comme disait Fanny. C'est que la colère, c'est quoi la colère? Par exemple, pourquoi ici, ce thème de la fureur, c'est justement dans le traité Shabbat? Parce que on se retrouve, la semaine, on n'est pas à la maison, on bosse, Et le Shabbat, on se retrouve où il y a des situations, par exemple... On se retrouve en famille, on se retrouve avec ses parents, on se retrouve avec ses enfants, on se retrouve avec un époux, on se retrouve avec sa femme. Je ne la supporte pas, j'en ai marre. Mais d'accord, tu ne la supportes pas, tu as envie de lui foutre des baffes, d'accord. Mais tu as envie de... Elle t'amène la pkaïla, mais prends-la ta pkaïla, mais j'en ai rien à foutre de ces pkaïla, mais... J'en ai marre, tous les Shabbats, tu m'amènes ce truc-là, ça pète, justement, parce que la personne ne supporte pas ce qu'elle vit. Ça, c'est ce que Fanny disait, et ce que Jessica aussi disait dans une certaine mesure. C'est, en vérité, c'est je suis étranger à ce que je vis. Je vis quelque chose. Et la colère, c'est que ce que je vis, je ne le supporte pas. C'est je vois mes gosses, sale môme, m'en veux. Mais à ton âge, je bossais. Mais c'est incroyable. Mais j'en ai marre de ton iPhone à la con. Mais tu passes ton temps de parler avec tes copines, avec mais vous êtes des... Décervelé dans cette génération de nuls. Mais voilà ton iPhone à la con, j'en ai marre de ces trucs-là, mais tu peux pas bosser un peu, poufi. Moi, quand j'étais à